Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une annonce faite par Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, en a donné les grandes lignes il y a quelques jours et le texte ne devrait pas tarder à être finalisé avant d'être discuté au Parlement. La loi sur les fausses nouvelles ou fake news en anglais est en cours d'élaboration. Ce n'est pas tant la définition des fausses nouvelles qui sera concernée que leur mode de diffusion via les médias sociaux ou les diffuseurs orientés ou sous influence et notamment en période électorale, puisque le but est souvent d'infléchir des choix politiques. Mais cette future loi ne risque-t-elle pas de créer un délit d'opinion? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio qui porte le nom de Jean Hélène, défenseur d'une information vérifiée et rigoureuse. Jean-Christophe Boulanger, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes président du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne et Guillaume Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la presse. Avant de commencer, une précision linguistique. Le délit de diffusion de fausses nouvelles existe. Il est défini par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. La loi sur les fake news, c'est celle qui est en cours d'élaboration, qui ne va pas modifier la loi de 1881, mais qui va venir s'ajouter. Alors on a plutôt tendance sur RFI à parler français, mais pour bien distinguer les deux, nous allons nous autoriser à parler de fake news pendant ce débat. La désinformation à des fins de déstabilisation, ce n'est pas un concept nouveau, on en trouve même la trace dans l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est au 6e siècle avant notre ère. Autrement dit, c'est une arme classique, mais on l'a vu durant la campagne sur le Brexit, la dernière élection présidentielle américaine ou même française, c'est un phénomène florissant. Comment, dans le flux d'informations actuel, peut-on débusquer à coup sûr une fake news? Jean-Christophe Boulanger.
Effectivement, on a vu sur le Brexit, sur Trump, et on a beaucoup parlé d'une influence supposée de ces fake news sur les résultats du scrutin. Il faudrait d'abord rappeler qu'on n'est pas absolument certain de l'influence réelle de ce phénomène.
C'est difficile à quantifier. Hein.
Des études sont en cours aux États-Unis, en France on n'en a pas encore, il y a un buzz sur le sujet, quel impact réel, on ne le sait pas encore. Il faudrait, comme vous l'avez rappelé aussi, redire que ce phénomène de fausse nouvelle, il est déjà encadré par la loi depuis 1881, l'article 27 de la loi de 1881, qui prévoit ce délit de fausse nouvelle, qui, loi reste peu appliquée aujourd'hui, mais pourtant applicable. Il y a peut-être des évolutions à la marge de cette loi qui pourraient améliorer les choses. Globalement, la question qui se pose sur cette loi qui a été annoncée par Emmanuel Macron lors de ses vœux à la presse début janvier, puis précisé par la ministre de la Culture la semaine dernière lors de la conférence des éditeurs, on n'a pas de texte aujourd'hui. Donc il faudrait aussi... on ne sait pas exactement de quoi on parle au-delà des intentions affichées.
Alors, on connaît quand même quelques intentions, comme vous dites. Guillaume Sauvage, juridiquement, est-ce qu'il y a des critères objectifs à la définition des fausses nouvelles ?
Tel que c'est mis en œuvre par les tribunaux qui jugent de l'application de la loi de 1881, oui, tout à fait. Les critères du délit de fausse nouvelle dans la loi de 1881, c'est effectivement une information qui ne correspond pas à la réalité, c'est le premier point. Mais le deuxième point, et qui est un verrou important, c'est que il faut pouvoir prouver que la personne qui a diffusé la fausse nouvelle l'a fait sciemment, c'est-à-dire en conscience que l'information qu'elle donne ne correspond pas à la réalité. Ce qui permet d'écarter ce que les juges ont toujours fait, la répression d'une opinion qui serait seulement divergente.
D'accord. Et ces affaires, vous en parliez un petit peu, Jean-Christophe Boulanger, mais peut-être que vous, avec votre vision de juriste et d'avocat, vous allez pouvoir nous en dire plus. Est-ce qu'elles arrivent souvent devant les tribunaux ?
Alors, le délit de fausse nouvelle, non, très peu. Il est très peu utilisé parce que justement, le législateur de 1881, conscient du danger, a mis un certain nombre de verrous, de sorte qu'on a des exemples et c'est aussi pour ça que ce délit a mauvaise réputation, parce que la majorité des exemples sont pendant des périodes très troublées, de guerre, ou guerre d'Algérie, ou manifestations étudiantes dans les années 80. Donc ce sont des périodes très particulières dans lesquelles le délit a été utilisé. Mais pas que. Dans les années 2000, un magazine qui bidonne un reportage en... payant des figurants pour jeter des projectiles sur les forces de police, a été condamné sur la base du délit de fausse nouvelle.
Alors, est-ce que ça veut dire, Jean-Christophe Boulanger, qu'il faut absolument légiférer ? Est-ce qu'il y a nécessité d'une nouvelle loi sur ces questions-là ?
Non, absolument pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, la loi de 1881, c'est un équilibre fragile entre liberté de la presse et les limites données à cette liberté. La changer par une autre loi, c'est complexe. Une question, par exemple, que poserait une loi sur les fake news. Quand Mediapart révèle l'affaire Cahuzac, tout le monde dit que c'est une fausse nouvelle.
C'est vrai que ça a été très discuté à l'époque, absolument.
Voilà, Mediapart, membre fondateur du SPIL que je représente, où est la limite ? La loi 1881 le fixe déjà très bien, et la jurisprudence est abondante avec cette loi. Modifier cet équilibre fragile et dangereux pour la liberté de la presse. Ensuite, concrètement, il y a trois aspects dans ce qu'a proposé la ministre de la Culture sur cette loi. Concrètement, on parle de trois choses. D'abord, une obligation de transparence nouvelle qui serait donnée aux plateformes concernant les contenus sponsorisés. Et ça, personnellement, je pense que c'est plutôt heureux. C'est-à-dire obliger les réseaux sociaux, Facebook, Google, à communiquer de façon transparente sur qui paye les publicités sur ces réseaux. Ça permet mieux de faire la différence entre les contenus sponsorisés et les contenus non sponsorisés, de savoir qui est derrière ces contenus sponsorisés. Deuxième aspect, c'est une extension des pouvoirs du CSA pour suspendre les conventions de médias sous influence étrangère en période électorale. Et en incluant les sites internet de ces médias étrangers. Là-dessus, je suis très réticent, c'est-à-dire que le CSA, qui est une instance politico-administrative, a pas de légitimité, à mon sens, à interférer sur des sites internet de presse. Et troisième aspect, une procédure dite accélérée, en référé, pour faire cesser rapidement la diffusion en période électorale d'une fausse nouvelle. Là-dessus, je me pose la question de pourquoi ne pas appliquer la loi 1880 sur cet article sur les fausses nouvelles. Le référé existe déjà. Est-ce nécessaire d'introduire une nouvelle loi sur ce cas-là ?
Alors, il y a donc dans ces propositions, il y a, vous l'avez dit, la transparence sur les contenus sponsorisés. Qui paye combien est-ce que ça vous paraît réalisable dans un temps raisonnable, Guillaume Sauvage ?
Alors, je voulais juste revenir sur un petit point sur la nécessité de légiférer, avec une petite particularité quand même, c'est que on a une loi qui a été préparée par le gouvernement, présentée par Madame la ministre de la Culture. Et d'ailleurs, est-ce que c'était le gouvernement réellement ? Ça, c'est une autre question. Mais que dans les faits, elle va être portée par un ou plusieurs députés de la majorité. Et donc concrètement, ça signifie que comme ce sera porté par un député de la majorité, on s'évite de solliciter un avis du Conseil d'État et la réalisation d'une étude d'impact. Ce qui aurait dû être le cas.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça sera non pas un projet de loi, mais une proposition de loi.
Exactement.
C'est ça que
ça exactement. Je voulais pas trop jargonner, voilà. Mais c'est exactement ça. Mmh. Et alors, c'est pas nouveau. On l'a eu avant, mais on nous promet des nouvelles méthodes politiques, manifestement elles ne sont pas là.
Alors, je reviens sur ma question. Transparence sur les contenus qui sont sponsorisés, par qui et pour combien, ça vous paraît réalisable assez facilement de réglementer dans ce sens-là ?
Je suis assez d'accord avec Monsieur Boulanger là-dessus. C'est, je dirais, ce qu'il y a de moins idiot, de moins inutile et dangereux dans cette loi. Effectivement, pourquoi pas. Avec cette petite anecdote, à savoir qu'on relie beaucoup cette loi à ce qui a pu arriver à Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.
Oui, l'avant-veille du premier tour, hein, les Macron Leaks, et c'est Wikileaks qui révèle le contenu, soi-disant, ça n'a jamais été vraiment vérifié, des emails de l'équipe Macron, hein, c'est ça.
Voilà, moi ce que je voulais juste dire sur la transparence, c'est que dans mon souvenir, juste après qu'il a gagné les élections, comme quoi il n'a pas été trop victime non plus des fake news, Emmanuel Macron a annoncé des plaintes par rapport à certains sites d'information qui cherchaient à creuser les questions de financement de sa campagne et de l'identité de ses donateurs. Donc de ce point de vue-là, c'est la transparence, mais peut-être pas pour tout le monde.
Oui, alors les plateformes sociales, elles envisagent de travailler avec des plateformes de vérification pour déterminer des sources fiables, des codex, ce genre de fact-checker, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que, au bout du compte, Jean-Christophe Boulanger, ça ne risque pas d'amener les Facebook, les Twitter, à se cantonner à des médias qui sont déjà installés ? Est-ce qu'il y aura la place pour tout le monde ?
L'impact, vous posez la question de l'impact des réseaux sociaux sur les médias et la consommation médiatique.
Est-ce que cette loi va pousser les réseaux sociaux à ne favoriser que des sites de médias installés, par exemple?
Telle qu'elle est présentée, je ne suis pas sûr qu'elle modifie quoi que ce soit sur ce sujet-là. Parce que la seule obligation qui serait donnée aux réseaux sociaux, c'est de communiquer de façon transparente sur qui paye la publicité. Et les médias sont peu consommateurs de ces publicités, en tout cas pas particulièrement par rapport aux autres industries. Donc le sujet que vous posez est un bon sujet, mais qui ne sera pas impacté par cette loi-là, je pense.
D'accord. Il y a un problème de neutralité du net dans ce cas-là, Guillaume Sauvage?
Je sais pas. Effectivement, là, la question, c'est que on pourra savoir quel est le contenu sponsorisé. Donc, c'est le contenu qui est sur les réseaux sociaux, mais avec des gens qui payent pour qu'il soit plus visible. Et ça, effectivement, c'est intéressant. Et je pense pas que ça viendra bousculer la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent.
Et il faut préciser que Facebook, par exemple, a déjà fait des annonces récentes dans les dernières semaines pour. Justement, apporter cette transparence. Mmh. Donc, il le fait d'abord, je crois, aux États-Unis, mais il prévoit de l'étendre à l'ensemble du monde. Donc, les plateformes travaillent déjà.
Il y a une loi allemande, d'ailleurs, qui est en route là-dessus, sur ce sujet.
Alors, c'est pas exactement sur la transparence de qui paye sur les annonces. C'est obliger les plateformes à en réagir dans un délai très court quand on leur signale qu'un contenu est à caractère haineux. Et donc depuis quelques mois en Allemagne, Twitter, Facebook ont l'obligation de supprimer les contenus à caractère haineux en moins de 24 heures, je crois.
Alors, vous l'avez dit, le CSA aurait le pouvoir de suspendre la diffusion de chaînes. On pense évidemment aux chaînes russes qui ont été nommément désignées par Emmanuel Macron à l'occasion de la visite du président russe à Paris, à Versailles. Est-ce qu'il y a un risque pour le CSA de se transformer en tribunal de vérité, Guillaume Sauvage?
Alors, on pense, vous dites très justement, on pense aux chaînes russes. Moi, ce qui me gêne, et donc je dis que j'ai pas eu accès aux détails du projet, mais comme la plupart d'entre nous, pour le moment, ce sont les questions de définition. On nous dit un média sous influence étrangère. Donc, on pense aux chaînes russes, ok, mais il faudrait peut-être définir un petit peu plus.
Il y a peut-être pas que ça, effectivement, et puis comment le préciser, oui.
C'est le premier point. Après, le deuxième point, et ça renvoie au fait que cette loi est à mon sens pas nécessaire, c'est que il y a déjà des tas de systèmes existants et que notamment on a déjà un processus, le CSA a déjà un pouvoir de sanction et on a déjà en cas d'urgence un mécanisme qui prévoit, c'est dans la loi de 86, que le CSA puisse en urgence saisir le Conseil d'État. Et ce qui permet justement qu'on ait une décision du Conseil d'État et non pas du CSA avec les réserves qu'on peut avoir sur cet organisme comme il a été dit tout à l'heure.
Est-ce que sur le côté juridique et technique, est-ce qu'il est possible au CSA ou même à n'importe quelle autorité en France de couper, alors une chaîne de télévision, ça oui, on peut le concevoir, mais un site internet? C'est faisable, ça? On a les moyens de faire ça en France aujourd'hui, Jean-Christophe Boulanger? ça paraît un petit peu étonnant, en fait.
Oui, on a les moyens, mais ça devrait c'est pas être une instance politique ou administrative comme le CSA qui puisse faire ça. Mais la justice, aujourd'hui, le droit s'applique sur Internet. Par exemple, pour un cas de diffamation, le droit s'applique. Donc on peut exiger la suppression de contenu sur Internet et obliger l'éditeur, l'hébergeur à supprimer ce contenu, tout à fait.
Donc ça, ça dépend effectivement du tuyau, si je peux dire ça. C'est le fournisseur d'accès à Internet qui doit s'assurer que des contenus qui sont condamnables ou condamnés ne puissent pas arriver sur le réseau français. C'est ça l'idée, Guillaume Sauvage?
Techniquement, ça risque d'être quand même un peu difficile.
C'est la question que je vous pose. Oui.
Après, ce qui est très important, c'est que par rapport à ces annonces, il faut voir l'existant. Et il faut savoir que bon, le CSA est déjà, il figure déjà une notion d'honnêteté de l'information dans la loi de 86. Mmh. Loi de 86 dont le CSA est le gardien et le garant. Donc on a cette notion-là. C'est même une notion à valeur constitutionnelle, donc très très forte. Donc ça existe déjà. Donc là encore, une nouvelle loi, je ne suis pas certain que ce soit très, très pertinent. Et encore une fois, d'un point de vue technique, effectivement, je pense qu'on peut assez facilement, d'un point de vue technique, contourner des interdictions de diffusion sur Internet.
Alors la procédure en référé dont vous parliez tout à l'heure, c'est le troisième aspect de ce qu'on a pu comprendre de cette loi. Jean-Christophe Boulanger, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir agir en urgence, puisque c'est ça que ça veut dire, hein, tout simplement?
L'idée du ministre et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un caractère particulier en période électorale, où une diffusion artificielle de fausses nouvelles peut avoir un impact démocratique, où le temps normal de la justice serait pas suffisant pour prévenir cet impact. Et donc là, le cadre tel que l'a fixé la ministre, c'est qu'il puisse y avoir une action urgente si la diffusion d'une fausse nouvelle a trois conditions concrètement. C'est d'abord si elle est manifestement fausse, ensuite si elle est diffusée de façon artificielle avec du contenu sponsorisé, payant, et enfin si elle est de nature à altérer le résultat du scrutin. Là-dessus, je m'interroge aussi sur la pertinence d'ajouter une loi par rapport à la fois au code électoral, qui permet déjà de faire pas mal de choses sur ce sujet-là, et par rapport à la loi 1880 qui peut permettre en référé une action rapide. Donc je ne vois pas en l'état, mais on n'a pas de texte pour en décider techniquement, mais je ne vois pas en l'état l'intérêt d'une nouvelle loi, effectivement, sur ce sujet.
Guillaume Sauvage, vous confirmez, le référé, ça existe déjà,
c'est... Oui, je vous confirme. Là-dessus, ma réaction d'avocat, elle est très simple. On veut que la justice se prononce vite, il faudra lui donner des moyens. Le budget de la justice française, il est calamiteux, et donc on manque d'hommes, que ce soit des magistrats ou des greffiers, et on manque de matériel. Et là encore, l'existant, il figure dans la loi de 1881, une règle spécifique: quand on a une diffamation qui vise un candidat à une élection, les juges doivent statuer avant le scrutin. Et on a déjà eu des contentieux où on a la cour d'appel qui juge un samedi matin parce qu'on vote dimanche. Et donc ça existe. Donc là-dessus, dire que la loi va prévoir un référé, je saisis pas très bien.
Et on peut peut-être rappeler que sur cette affaire de Macron Leaks, la fuite est arrivée le vendredi soir avant le premier tour, et on n'a plus le droit sur les antennes classiques et à la télévision et dans les journaux de parler de l'élection présidentielle à partir du vendredi soir à minuit. Quelque part, la loi, elle a quand même protégé l'élection à ce moment-là, Jean-Christophe Boulanger.
Ouais, tout à fait. Mais pour
donc ça existait déjà, quoi. C'est ce que je veux dire.
Hein. Ça existait déjà. Je voudrais peut-être ajouter quand même pour que cette loi, elle cadre mal un débat. Elle pose le débat de façon maladroite, mais que derrière tout ça, il y a quand même un vrai débat qui est comment on fait la différence sur Internet entre des contenus vérifiés, des contenus professionnels et des contenus faux et destinés à tromper. Et Internet pose de nouvelles questions, là où avant, dans l'univers papier, les choses étaient plus simples. Donc c'est une vraie question. Le problème là, c'est que cette loi de circonstance pose mal le débat. Donc nous, au SPIL, les 150 éditeurs, on s'est dit qu'on préférait pas réagir à ce projet de texte, mais plutôt avoir une réflexion de fond et avoir des propositions de fond sur le sujet.
Alors je vais poser une question. Oui, vous vouliez réagir.
Ce qui est sûr, c'est que le sujet de la fiabilité de l'information sur Internet est un sujet crucial et que il mérite plus qu'une seule réponse. Et donc le juridique, c'est très bien, mais il faudra aussi du pédagogique, il faudra aussi du déontologique, il faut décrypter les choses fausses qui peuvent survenir, et il faut aller expliquer dans les écoles un petit peu le sens critique à avoir par rapport à Internet. Il faut multiplier les réponses avec plusieurs facettes, et la loi ne résoudra pas tout.
Et puis on doit peut-être nous s'interroger, journalistes, est-ce que la crédulité du public par rapport à ces fausses nouvelles n'est pas inversement proportionnelle à la confiance dans les médias, Jean-Christophe Boulanger.
Si, effectivement, on peut le voir comme ça. Et on a une responsabilité, nous, éditeurs, journalistes, à mieux faire notre travail de définition des standards déontologiques, à mieux les faire connaître, à mieux faire la différence par le public sur Internet entre ce qui est un contenu professionnel et ce qui ne l'est pas. On a publié au SPIL une charte des bonnes pratiques et on encourage tous nos éditeurs à avoir des engagements déontologiques. Effectivement, on peut faire mieux collectivement sur ce sujet-là. Et comme le disait Monsieur Sauvage, je pense qu'aussi l'État a un rôle à jouer plutôt sur l'éducation aux médias. C'est un sujet majeur. On peut faire notre part en allant dans les écoles, nous, journalistes ou presse, mais c'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités sur ce sujet-là.
Merci à vous, Jean-Christophe Boulanger. Merci à vous également, Guillaume Sauvage, d'avoir participé à cette émission. C'est déjà fini. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Olivier Roux. Vous pouvez nous retrouver, nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, et sur nos applications mobiles. A priori, c'est fiable. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.